Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le pavillon de la lanterne, c'est une résidence qui accueille depuis des décennies des ministres, des premiers ministres, des présidents de la République pour leur week-end, pour des fêtes, de mariages, des réveillons. C'est un lieu de pouvoir aussi, c'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec notre invitée, la journaliste Émilie Lanaise. Bonsoir.
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 Bienvenue, vous êtes journaliste au Point, vous avez enquêté sur cette résidence aujourd'hui des présidents de la République et ce n'est pas facile. On vous a vraiment, vraiment pas ouvert les portes.
Non, j'ai même été surprise parce que à partir du moment où c'est une résidence officielle de la présidence, je pensais qu'en allant m'adresser au service qui s'en occupe à l'Élysée, on allait me recevoir, que le mobilier national allait me dire quelle chaise, quel meuble, quel rideau. Et je n'ai eu que des portes closes, mais des portes closes jusqu'à un point absolument délirant, excessif, me semble-t-il, puisque l'architecte en chef du château de Versailles, auquel je demandais de me raconter l'histoire de la maison au XVIIIe siècle, m'a fait répondre qu'il fallait que je m'adresse à François Hollande. C'est-à-dire que cette maison, personne n'a jamais dit qu'on ne devait pas en parler, mais tous ceux qui ont à s'en occuper de près ou de loin ont tellement intégré l'idée que c'est un endroit tabou, un secret, que même les questions alimentaires deviennent impossibles.
Et alors c'est même difficile de savoir où elle est située, si on cherche une carte
Vous ne la trouvez pas sur les plans du château de Versailles. Elle n'est pas dans les plans de Versailles. Oui. Elle n'a pas d'adresse. Donc en fait, il faut savoir où elle est. Moi, je sais maintenant.
Si on cherche sur Google Maps ou les équivalents...
Vous ne trouverez pas, il n'y a pas d'adresse.
Il n'y a rien.
Oui. Donc il faut savoir où elle est.
Et comment vous avez trouvé alors?
Je l'ai trouvée, j'y suis même allée très souvent la regarder. Et je vais encore la regarder parce que c'est un endroit très joli.
Ça veut dire que vous avez fureté toute seule, Émilie Lanaise, c'est ça, la découverte de ce lieu, la lanterne?
Oui, enfin, fureté tout seul, le parc du château de Versailles, on y est rarement seul. Hein. C'est quand même
ouvert,
un bout du parc du château de Versailles, mais on n'y entre pas par le château de Versailles, on y entre par la nationale. Ouais.
Alors, vous publiez le fruit de votre enquête dans un livre, La garçonnière de la République, c'est aux éditions Grasset. Alors moi, je me disais, tiens, je vais peut-être pouvoir la visiter, cette lanterne, pendant les journées du patrimoine.
Alors c'est le seul bâtiment de tout le pays, mais vraiment le seul, l'unique, il n'y a que la lanterne, qui n'ait jamais été ouverte, mais jamais. C'est-à-dire, il y a un autre château équivalent, le château de Souzy-Labriche, qu'on connaît moins parce que ça date plutôt de Mitterrand. Ce château a été ouvert une seule journée, c'est en soi déjà une exception. La lanterne, jamais. Journée du patrimoine, jamais, jamais, jamais.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi ce lieu est vraiment fermé au public et interdit aux journalistes? Qu'est-ce qu'il a à cacher?
C'est-à-dire qu'on peut visiter le bureau du président de la République, avec un peu de chance, il sera assis dans le bureau au moment où vous irez, il vous fera lui-même la visite, mais on ne va pas à la lanterne. Pourquoi? Parce que je pense que la lanterne, j'en suis certaine, la lanterne c'est un endroit où les présidents, autrefois les premiers ministres, sont chez eux. C'est un endroit très intime. C'est un endroit où ils laissent leurs chaussures de sport quand ils font du sport, leurs brosses à dents, leurs pulls, leurs raquettes, et ils ont l'impression qu'ils sont chez eux. Ils sont dans un bâtiment de la République, un bâtiment officiel. Mais il ne peut pas être ouvert parce que c'est le cœur de leur intimité.
Et le cœur de la vérité. Zut!
Et oui, et peut-être aussi l'un des symboles de ce qui reste de monarchique dans notre République. Il y a ça aussi, non?
En tout cas, c'est un lieu dans lequel il se comporte avec beaucoup d'aise, pour le dire les choses gentiment. Ils ont exercé parfois beaucoup de caprices et tout procède de la même histoire. Comme cet endroit est invisible, que personne ne sait où il est, ce qu'ils y font, ils ont l'impression que c'est leur secret, oubliant un peu quand même que ce lieu est un lieu que finance le contribuable.
Ils n'en sont que locataires.
Ils n'en sont que locataires passagers parce que nous les avons élus ou parce que Premier ministre, ils ont été nommés. Mais c'est un endroit qui invite à penser qu'on est seul au monde. Et ce qui renforce cette tradition monarchiste très fort dans cette maison, c'est qu'il faut s'imaginer que quand vous montez au premier étage dans la chambre du maître des lieux, vous ouvrez les fenêtres pour regarder les arbres, les oiseaux, vous tournez la tête et vous avez le château de Versailles.
Ah, c'est ça le point de vue.
Le président de la République se lève, ouvre ses fenêtres, il tourne la tête et il a Louis XIV. Oui. Donc ça rend fou.
Et c'est ce que disait Malraux qui a été l'un des locataires de ce lieu, et vous publiez la phrase de Malraux en exergue de votre livre. Il dit « Ici, vous êtes le colocataire de Louis XIV, de Dieu et du soleil ».
Rien Absolument. Que ça. Émilie Lanaise, il y a un bandeau autour de votre livre et une photo où l'on voit du ciel la lanterne. Vous nous décrivez à quoi ressemble cet endroit?
C'est un endroit vraiment charmant. C'est pas très grand, c'est 4 hectares. On entre, il y a une palissade, on roule sur un long chemin de gravier, il y a une grille fermée avec deux serres, on rentre dans la cour et là on a un petit pavillon 18e avec un seul étage, avec deux bâtiments sur le retour. Ce qui est extraordinaire dans cette maison, c'est que les fenêtres se font face, donc la maison est inondée de lumière. C'est pas grand, 200 mètres carrés en tout, c'est pas très grand. Il y a 3 chambres à coucher pour l'hôte des lieux, 3 chambres pour les invités qui communiquent, ce que j'adore d'ailleurs, parce qu'il faut imaginer que les invités du président de la République, les chambres communiquent. Donc,
c'est-à-dire s'ils se trompent de porte, ils se retrouvent avec le président en chaussettes.
Si, oui, voilà, ah ouais. Ou s'ils veulent aller aux toilettes.
Avec les autres invités en chaussettes.
Ouais. Alors, c'est, la maison, elle est à la fois ravissante, parce que c'est du parquet de Versailles, des tableaux de maître au mur, des très jolis meubles, enfin tout est un goût exquis. Et en même temps, elle est un tout petit peu modeste. Et par exemple, c'est un détail que j'adore, les robinets, il n'y a pas de mitigeur. Il y a un robinet pour l'eau froide, un robinet pour l'eau chaude, ça n'existe plus dans salle de bain.
Il n'y
a pas de douche, il y a des baignoires qui est beaucoup trop petite. Donc c'est à la fois, l'endroit, je le répète, est vraiment une consécration de l'art français du 18e. C'est un endroit magnifique, mais un peu brinque-ballant aussi.
Un peu vieillot aussi.
Donc ça donne l'idée qu'on est chez soi.
Oui, c'est ça. Et du coup, ça attise la convoitise des hommes de pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'une des résidences du président de la République. Pas depuis longtemps. Qui a pris cette décision ?
Alors, c'est Nicolas Sarkozy. Et alors, c'est une histoire absolument magnifique, puisque Nicolas Sarkozy est élu le 6 mai 2007. Le 9 mai, 3 jours plus tard, il n'est pas encore officiellement président de la République. Il n'a pas été intronisé. Et il se repose, vous vous en souvenez, sur le yacht de Bolloré avec sa femme et des amis. Et donc, 3 jours après son élection au suffrage universel, que fait Nicolas Sarkozy allongé sur le yacht de Vincent Bolloré ? Il passe des coups de fil. Toute la journée pour récupérer cette maison qui était occupée jusque-lors par les premiers ministres depuis De Gaulle.
Et donc par Dominique de Villepin à l'instant T.
Voilà. Et alors il appelle le directeur de cabinet de Dominique de Villepin, qui est Bruno Le Maire, et d'abord il lui demande un peu, raconte-moi la maison, elle est bien, elle est comment Et alors Bruno Le Maire, un peu à son corps défendant, directeur de cabinet du Premier ministre, encore en fonction, se retrouve à faire l'agent immobilier, à décrire la maison. Et là, une journée de dingue, c'est-à-dire que Sarkozy l'appelle toutes les demi-heures jusqu'à obtenir à la fin ce qu'il souhaitait, c'est que cette maison lui soit cédée immédiatement. Il va aller dans cette maison avant même d'être officiellement président de la République. Et Dominique de Villepin va envoyer son épouse vider les lieux, récupérer les raquettes, les livres et les jeux des enfants.
Ouais. Et François Hollande se gardera bien de revenir en arrière. Lui aussi va conserver le loisir et le plaisir que représente cette résidence de la Lanterne. Il va même renouer avec les réveillons socialistes de la Lanterne. Qui avait instauré cette tradition ? Réponse tout de suite sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le pavillon de la Lanterne dernière, ses murs se cachent certains des secrets les mieux gardés de la République. On pousse la porte de cette demeure nichée au fond du parc du château de Versailles avec la journaliste Émilie Lanaise. La Lanterne réservée à François Hollande, vous nous l'avez expliqué, est assez proche pour quelques mois encore. Il y a renoué avec une forme méconnue de tradition socialiste. Vous nous racontez ?
Oui, alors François Hollande invite très peu de gens dans cette maison et il y reçoit toute l'année personne. Il y reçoit ses enfants, beaucoup, mais sinon pas d'amis, pas d'invités, contrairement à Nicolas Sarkozy qui y reçoit beaucoup. En revanche, il semble avoir une tradition quand on est président socialiste à la Lanterne, c'est qu'on fait un réveillon à la Lanterne. Alors, il va le faire le premier en 2013 avec Valérie Trivaler. Il reçoit Manuel Valls, son épouse, Anne Gravoin, la violoniste, Michel Sapin et sa femme. Et il y a aussi Gérard Jugnot et sa compagne de l'époque, Saïda Jawad, qui est productrice de cinéma. Et François Bachy, un journaliste qui aura une belle carrière après, parce qu'il va être directeur de la communication de la Caisse des dépôts. Mmh. Et ce qui m'a amusé dans cette histoire, c'est que bon, c'est un réveillon, ils sont 8, enfin, ça n'a rien de grandiloquent, c'est que quand François Hollande va changer de compagne et va être avec Julie Gayet, eh ben, il va reprendre le même réveillon, mais surtout avec quasiment les mêmes invités. C'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau les époux Valls, à nouveau les époux Sapin, on a juste échangé Gérard Jugnot contre Gaspard Ganser, qui fait sa communication, comme vous le savez, et l'épouse de celui-ci. Mais on a l'impression que c'est le même plan de table.
Et c'est ce qu'on appelle les réveillons socialistes,
oui.
C'est ça ?
Parce que Lionel Jospin le faisait aussi.
Oui, Lionel Jospin a fait un réveillon, il a fait ses 60 ans aussi. Oui, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, oui.
Alors, quelques semaines après le fameux 31 décembre 2013, où François Hollande et Valérie Trierweiler reçoivent quelques amis pour ce réveillon socialiste, la presse à scandale va révéler la relation entre François Hollande et Julie Gayet. février. Que va devenir la lanterne pendant quelques jours?
Alors, la lanterne va devenir un lieu encore plus secret que d'habitude. Valérie Trevailer, comme vous le souvenez, va devoir se reposer quelques jours dans un hôpital. Et c'est elle qui va demander à sa sortie, ayant appris de manière publique et d'une extrême violence qu'elle était répudiée, elle va demander à aller se reposer à la lanterne. Alors pourquoi la lanterne? À mon sens, il y a deux interprétations. D'abord, elle aimait beaucoup cette maison. Et la seconde, c'est que je crois qu'elle se dit qu'en restant dans cette maison qui est un lieu de la République, elle reste un peu dans le cœur de François Hollande, et comme elle espère que tout n'est pas définitivement fini. Donc elle va y être installée avec ses amis, je ne me souviens plus très bien s'ils sont 5 ou 6, mais enfin elle arrive avec ses amis, ils écoutent de la musique, ils dînent, ils font du vélo, ils rient. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que François Hollande vient plusieurs fois dans cette semaine-là pour négocier leur séparation et le communiqué. Et donc à chaque fois que François Hollande est annoncé, les amis prennent une voiture et vont se cacher dans un café à Versailles. Et quand François Hollande repart, les amis reviennent. Et ce petit jeu va durer une semaine. Et à la fin, comme chacun sait, ils se séparent et Valérie Trevailer va quitter la lanterne. Mais rapidement, c'est dans cet endroit que Julie Gayet va être officiellement, officieusement présentée.
C'est-à-dire, sous quelle forme? Avec des photos volé avec plein de guillemets
oui,
autour.
Oui, sous la forme d'un week-end de Pâques. Dans les week-ends de Pâques, on est en famille, on se promène. Là, on est en famille, on se promène. Il y a Julie Gayet, il y a ses parents, il y a Jean-Pierre Jouyet et sa femme, il y a les enfants de Julie Gayet. Et ils vont être pris en photo se promenant dans le parc du Château de la Lanterne. C'est des très jolies photos parce qu'ils sont habillés, enfin, ils ont des manteaux, des écharpes, il ne fait pas très chaud, il y a du soleil. Enfin, c'est une promenade comme on fait le dimanche de Pâques. Et ce qui m'amuse, c'est que quand on connaît la maison qui est très sécurisée avec des murs. Des caméras, enfin c'est, on ne rentre pas. Et il est de notoriété de paparazzi qu'il y a un seul endroit, il y a un arbre dont on peut prendre des photos. Et cet arbre, les présidents, les services de sécurité le connaissent. Ils ont décidé en fait de ne jamais le scier. C'est un arbre qui est à l'extérieur du. Parce que, en fait, c'est... du coup, ils savent quand ils vont se promener à tel endroit qu'ils peuvent être vus. Donc c'est. Voilà, donc c'est des photos qui ont le grain d'une photo volée. Mais dont on n'a rien fait pour qu'elle n'existe pas.
Ouais. Cette arme n'a toujours pas été sciée. Alors c'est drôle parce que dans votre livre La garçonnière de la République, publié chez Grasset, vous racontez que c'est aussi au pavillon de la lanterne que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni voulaient officialiser leur liaison. Alors ça, l'histoire elle est vraiment savoureuse, vous allez nous la raconter. Émilie Lanès, ça commence par un coup de fil de Nicolas Sarkozy, président de la République, à Jean-Jacques Ayagon. Alors, qui est Jean-Jacques Ayagon à l'époque?
Jean-Jacques Ayagon est à l'époque président du château de Versailles. Et il est en vacances en Suisse, si je me souviens bien. Il reçoit un coup de fil de sa secrétaire un peu affolée. Le président de la République veut vous parler. Bon, il a Nicolas Sarkozy au téléphone qui lui dit « Mon cher Jean-Jacques, je passe quelques jours à la lanterne avec des amis et donc je voudrais venir au château de Versailles dimanche. » Alors, Jean-Jacques Ayagon dit « Oh là 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 là, dimanche, mais alors, venez en fin d'après-midi, il y a beaucoup de monde, le dimanche, c'est bondé. Non, je viendrai à 15h. Non, mais vraiment, vous feriez mieux de venir à 10h. Non, je viendrai à 15h. Insiste Nicolas Sarkozy. Donc Jean-Jacques Ayagon met tout en place et à sa stupéfaction, il voit arriver un convoi officiel qui, au lieu de venir de la lanterne au château en passant le parc, ce qui serait très discret, fait le tour et passe par l'avenue de Paris et remonte la cour d'honneur et salue la statue de Louis XIV et trois grosses berlines. Et de la voiture
comme
sort.
Très discrète, on peut faire mieux.
Donc ouais, c'était extrêmement visible. Trois grosses berlines noires. De la première voiture sortent Nicolas Sarkozy et, dit Jean-Jacques Ayagon, une actrice, une mannequin de renommée mondiale, Carla Bruni, dans l'autre voiture, la mère de celle-ci, la tante de Carla Bruni, le fils de Carla Bruni et un enfant, un compagnon du fils de Carla Bruni. Alors Jean-Jacques Ayagon a préparé un petit programme sympathique, il les emmène visiter les appartements privés de la reine. Comme on est quelques jours avant Noël, il y a un petit concert des chants de la nativité dans la chapelle royale. Et donc, ils traversent une cohue de touristes. Donc, ils sont bombardés. Il y a des gens n'en plus finir, des photos, des selfies. Et Jean-Jacques Ayagon se dit, en fait, tout est mis en scène pour rendre leur affaire publique. D'autant plus que le camarade du fils de Carla Bruni a un malaise. Il est obligé d'être allongé. Il faut venir un saut. Donc, il y a un attroupement. Et on a donc le président de la République en fonction, une mannequin célèbre dans le monde entier, le château de Versailles, dimanche 15h. Et à la stupéfaction de Jean-Jacques
Ayagon... Mais le lendemain matin, dans la presse,
rien.
Il n'y a rien.
Ils ont été vus par des centaines de gens, rien. Et ce qui est amusant, c'est que trois jours plus tard, il va y avoir la révélation de leur idylle, de leur histoire d'amour, à Disneyland. Et en fait, Jean-Jacques Ayagon et moi-même, si je peux m'associer, nous supposons que ça avait peut-être été programmé pour le château de Versailles, que ça n'a pas fonctionné, le mystère des touristes, et que donc ça a été refait à Disneyland.
Dans un autre genre.
Dans un autre décor.
Disneyland. Moi, j'aimerais bien savoir combien ça nous coûte, histoire, la lanterne. Vous avez ça, quelques éléments de réponse, j'espère, dans un instant.
Ce sera juste après un petit disque encore. Ils sont jamais petits, les disques.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité vous emmène dans les couloirs du pavillon de la lanterne. C'est l'un des palais de la République les mieux protégés et dont les secrets sont les mieux gardés. Et c'est la journaliste Émilie Lanaise qui nous sert de guide. Alors, on parlait des fêtes qui ont eu lieu dans cette belle demeure, 18e, nichée au cœur du parc du château de Versailles. Les réveillons, sous François Hollande, sous Lionel Jospin. Auparavant, la fête de mariage de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, pour boucler l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Mais qui paye pour ces fêtes? Les contribuables?
Je ne pense pas. Non, ce qui se passe, la lanterne, tout est confondu dans un budget extrêmement flou. La lanterne coûte officiellement 260 000 euros par an, ça bouge pas beaucoup. Mmh. Mais en fait, c'est un chiffre, il est intéressant par tout ce qu'il ne comporte pas. Puisque dans ce chiffre, il n'y a pas les frais de bouche, il n'y a pas les fleurs, il n'y a pas la piscine, il n'y a pas les carreaux, il n'y a pas les tontes, il n'y a pas la sécurité. En fait, les 260 000, c'est le chauffage de la maison et le salaire des deux gardiens. Et il est impossible d'avoir des chiffres plus précis. J'ai beaucoup essayé, c'est mis dans un pot commun, le budget de l'Élysée.
Et sur quel budget? Dans le budget de l'Élysée,
oui.
D'accord.
Mais il y a des grosses masses. Il est impossible de savoir précisément. Mais
c'est choquant, ça, qu'on ne puisse pas savoir, que vous, journalistes, vous ne puissiez pas avoir l'info et que nous, on ne puisse pas savoir combien ça coûte.
C'est-à-dire que nous, journalistes, ne puissions pas avoir l'info. Bon, ça, à la limite, on peut dire que c'est à nous de la trouver. Ce qui m'a plus intrigué, ma curiosité, c'est que les députés ont l'air de peu s'en préoccuper, puisqu'il y a un seul député, sous toute la Ve République, la lanterne a été abordée et son budget 4 fois seulement à l'Assemblée, et 4 fois par le même député, René Dosière, qui a beaucoup de mal à avoir des réponses précises. Moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas un questionnement des députés, parce que tout ça, c'est l'argent du contribuable. Alors, je trouve ça tout à fait normal que les présidents, les premiers ministres qui ont une vie harassante aient besoin d'un bâtiment pour se délasser à 30 minutes de Paris. Je ne suis pas choquée par ça. Mais simplement, le budget pourrait être plus clair et ça éviterait, pour certains esprits, d'avoir des idées peut-être un peu...
Moi, j'aimerais bien savoir combien je paye d'électricité à la lanterne chaque mois.
C'est-à-dire que ça limiterait peut-être aussi nos fantasmes. Parce que du coup,
ça entretient forcément des soupçons. Il n'y a peut-être pas lieu d'être, mais pourquoi ne pas avoir un budget transparent et clair?
Oui. Mais vous dites que c'est pas choquant. Oui, effectivement, on peut l'entendre. C'est un job particulièrement dur, qu'on soit président de la République ou Premier ministre. Il y avait une série documentaire qui avait été faite sur l'enfer de Matignon, oui. Avec les témoignages des Premiers ministres, qui disait que l'une des rares fenêtres où ils pouvaient souffler, effectivement, c'était quand ils allaient à la lanterne.
Absolument.
Bon, parce que c'était la résidence des premiers ministres avant Nicolas Sarkozy. Depuis quand, d'ailleurs, les premiers ministres avaient le droit de profiter de la lanterne?
Alors, c'est les généraux de Gaulle qui, dans cette maison, je vous fais très rapidement l'histoire, mais elle va revenir à la restauration, elle va revenir. En 1945, elle va être restaurée. En 1958, le général de Gaulle l'a fait venir dans le patrimoine de l'Élysée. Il ne sait pas très bien s'il va la donner à son Premier ministre ou au président de l'Assemblée nationale. Il décide qu'il va la donner à son Premier ministre, qui sera Michel Debré. Et puis la tradition se perpétue, à une exception près, André Malraux, qui, comme vous le savez, n'était que ministre de la Culture. Mais André Malraux, l'appartement qu'il louait à Boulogne a été plastiqué par l'OS. Quelques mois auparavant, il n'a plus de maison, enfin au sens propre. Et à l'époque, Pompidou, en revanche, lui, il a une maison secondaire à lui, dans laquelle il préfère aller. Donc André Malraux, on va lui prêter la lanterne.
Il va y rester longtemps.
Il va y rester 7 ans, c'est celui qui est resté le plus longtemps. Et je pense que c'est celui qui a le plus aimé cette maison, parce qu'il a aimé cette maison à la folie, mais quasiment littéralement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé une journée dans la vie d'André Malraux, il ne s'est pas préoccupé d'un tableau, d'un meuble, d'un tissu. Il faisait venir tous les conservateurs de tous les musées de France. Il rendait fous les gens du Mobilier National. Il aimait cette maison plus que sa propre épouse, Madeleine. Et d'ailleurs, Madeleine va partir.
Mais ça veut dire qu'André Malraux a transformé la lanterne ? Ou il l'a préservé, cajolé ?
Il l'a aménagé. Il y a mis énormément de choses. Il a mis des poignards marocains, il a mis des statues, il a mis des tableaux. Mais après, tout est parti avec lui.
Mais quand vous dites que Madeleine va partir, elle va quitter André Malraux parce qu'elle n'en peut plus de cette résidence ?
Entre autres, la dissension conjugale ne se limite pas à ça. André Malraux, très souvent, lui dit « Tu n'aimes pas cette maison, tu n'aimes pas cette maison. » Aimer cette maison, c'est pour lui un absolu.
Ça veut dire que chaque locataire peut aussi changer comme il veut le mobilier, la décoration de la lanterne. Enlevez-moi ces poignards marocains, je vois pas ce que ça fait là. Enfin, chacun peut faire ce qu'il veut sans penser à l'histoire et aux précédents locataires.
Alors, sans penser au précédent, tous les locataires peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, ils peuvent pas faire complètement ce qu'ils veulent parce qu'il y a un garant d'un certain goût à la française, c'est le mobilier national. Mais quand vous vous installez, vous faites venir le responsable du mobilier national qui vous propose un catalogue de tissus, qui vous propose un catalogue de meubles. J'ai appris notamment que certaines époques étaient en fonction des degrés de responsabilité. Les présidents de la République ont le droit, je sais pas quoi, aussi le Louis XVI et les premiers ministres aussi en dessous, mais ça dépend de votre degré. Et on vous propose des meubles, on vous propose des tableaux, on vous propose des tissus et vous pouvez tout refaire.
Ouais. Et sur la photo qu'on voit associée à votre livre publié chez Grasset, Émilie Lanaise, alors si on regarde bien, on voit un court de tennis et une piscine.
Oui.
Alors qui a fait construire ça ?
Alors ça, c'est un cadeau que Michel Rocard a laissé à ses successeurs. C'est donc en 1990, un an après la commémoration du bicentenaire de la Révolution. J'aime bien ajouter ça parce que la symbolique m'amuse. Ouais. Michel Rocard, qui a déjà passé un été dans cette maison, qui s'est ennuyé, et ses fils qui sont ados s'y sont ennuyés et ils décident de faire construire un tennis et une piscine. Ça va être fait, tenez-vous bien, avec le budget du ministre de la Culture, donc à de nouveau clarté financière extraordinaire. Et les travaux vont durer 6 mois. Très jolie piscine, carreaux de faïence italienne, éclairée aux chandelles, tennis en terre battue. On a juste oublié qu'on a mis le tennis sous des noyers, donc il y a des cosses de noix tout le temps. Et ce qu'on a oublié aussi, détail que j'adore, si vous me permettez de le dire, à la piscine, on a oublié de fabriquer un vestiaire, une pool house. Donc il faut que vous pensiez bien à ça. Quand le président de la République et ses invités veulent aller se baigner, ils mettent leur maillot de bain dans leur chambre et après, avec leur tongs, ils font tac, 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 jusqu'à la piscine parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se changer.
Oh, alors, c'est pas pratique, cette résidence.
Mais alors, est-ce qu'on y faisait aussi de la politique, quand même, de temps en temps, à la lanterne ? C'est ce que l'on va vous raconter dans un instant sur RTL, Les Anges de Robin Williams.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les hommes de pouvoir à la lanterne. On pourrait pasticher le chant révolutionnaire sur RTL. Notre invitée, la journaliste Émilie Lanaise, nous fait visiter le pavillon de la lanterne, résidence de week-end des présidents de la République depuis Nicolas Sarkozy et auparavant de tous les premiers ministres de la 5e République. Cette lanterne dont on parle dans ce chant révolutionnaire, c'était celle du château de Versailles, Émilie Lanaise ?
Non, pas du tout. Parce que le chant est postérieur, la maison est construite 3 ans plus tôt. Et en fait, la lanterne du chant que vous venez de nous laisser entendre, c'était ce qui servait à éclairer les rues de Paris. Et en fait, quand à la terreur, on attrape et pour les tuer, on les accroche là. Enfin, c'était juste des potences improvisées dans ce qui était les ancêtres des lampadaires.
Donc, pas de pendaison dans la résidence de la lanterne.
Pas que
en
je
revanche,
sache.
Pourquoi on l'appelle la lanterne, cette résidence des présidents de la République aujourd'hui ?
Alors, André Malraux, bien qu'il ait été ministre de la Culture, a colporté une histoire fausse. Il a dit qu'elle s'appelait le pavillon de la lanterne parce que, disait-il, en architecture, on appelle lanterne une maison dont les fenêtres se font face et où la lumière traverse. Et les architectes auxquels j'en ai parlé disent que c'est faux, que ce n'est pas un terme architectural. Elle s'appelle la lanterne parce que je vais vous emmener un peu loin dans l'histoire, mais juste à côté, il y avait une ménagerie qui était le zoo qu'on avait fait installer pour Louis XV quand il était enfant. Et il y avait à l'entrée de ce zoo une énorme lanterne. Et Louis XV va la donner au prince de Poix, duc de Noailles, qui sera le premier propriétaire de cette maison. Il va accrocher cette lanterne à l'entrée et ça va donner le nom à la maison, qui aurait pu aussi s'appeler le pavillon de la coquille, parce qu'à l'entrée, il y a une coquille Saint-Jacques. Mais c'est plus joli, pavillon de la lanterne.
Oui, ça sonne mieux.
Et qui l'a fait construire, ce pavillon de la lanterne ?
Alors, c'est le prince de Poix, duc de Noailles, gouverneur des chasses de Louis XV, qui est jaloux parce que lui, il est très, 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 très bien placé à la cour. Il a le meilleur job. Mais ses autres copains, eux, ils ont des hôtels particuliers avec jardin. Et lui, il a un appartement dans le château de Versailles, mais il n'a donc pas un jardin à lui. Et le roi, qui apprécie beaucoup ses services, va lui faire ce cadeau exceptionnel. C'est qu'il va lui couper 4 hectares de son terrain à lui et il va les lui donner. Et c'est la seule bâtiment privé dans le domaine royal. Et simplement, le prince de poids ne va pas en profiter longtemps, parce que 3 ans après, c'est la Révolution. Il se carapate en Suisse, il laisse sa femme qui mourra sur l'échafaud.
Alors Émilie Lanaise, on raconte depuis tout à l'heure ce lieu, on le découvre grâce à vous, ce lieu caché, secret, on comprend que c'est un lieu de loisirs, de fête pour les présidents de la République, pour les premiers ministres. Est-ce qu'ils y faisaient aussi quand même, de temps en temps, de la politique ?
Oui, un peu quand même. Alors, en fait, ça dépend dans l'histoire. Pierre Mauroy va y tenir des séminaires gouvernementaux. Il aime bien, il réunit tous ses ministres et tous ses conseillers dans une salle à manger, parce qu'il aime bien l'idée que ça soit éloigné de la presse.
Donc on est entre 80 et 84, c'est le premier ministre de François Mitterrand.
Ensuite, celui qui va y travailler le plus, Édouard Balladur m'a dit y avoir très peu travaillé, Michel Rocard, il reçoit parfois des ministres. Celui qui va en fait y travailler de manière la plus frénétique, c'est Nicolas Sarkozy, qui reçoit ses conseillers à la lanterne quasiment tous les samedis. Et donc ses conseillers racontent que être le conseiller de Sarkozy à la lanterne, c'est pas la même chose qu'être au salon vert à l'Élysée, parce qu'à la lanterne les sofas sont moelleux, on s'enfonce, Nicolas Sarkozy fait lui-même le service en passant des petits chocolats sur un plateau, mais c'est un endroit politique à ce sens-là, et c'est aussi un endroit politique sous Nicolas Sarkozy, parce que quand il va constituer son premier gouvernement, où vous vous souvenez qu'il va faire venir des ministres de gauche, Bernard Kouchner, il va recevoir beaucoup de ses potentiels ministres, enfin il va constituer le premier gouvernement de François Fillon, il va le constituer à la lanterne.
Dans la discrétion donc.
Oui, dans la discrétion. Alors ça se discute, parce que la lanterne, en même temps, il n'y a pas d'échappatoire, il y a une seule allée pour y rentrer, il y a une nuée de photographes, donc c'est à la fois discret, il faut juste être plus motivé, parce qu'il faut aller à 30 minutes de Paris en voiture. Lionel Jospin y a aussi reçu des ministres, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ça a été un lieu politique. Et selon la personne qui l'occupait, certains ne dissociaient pas, certains savaient faire des coupures. Je ne sais pas ce qui est mieux.
Oui, mais il plaît aussi beaucoup. Vous disiez que c'était moins solennel qu'à l'Élysée. Pour les femmes des présidents ou des premiers ministres, c'est aussi important. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup aimé souvent cette
maison, parce que c'est une maison dans laquelle elles ont cru qu'elles étaient maîtresses de maison. C'est-à-dire qu'à Matignon, à l'Élysée a fortiori, elles n'ont rien à dire. Enfin, je veux dire, elles n'ont pas à s'occuper de l'intendance, la machine est lourde, il y a des huissiers, la garde républicaine. À la lanterne, elles ont essayé de faire comme si elles étaient chez elles. Donc, Françoise Fabius a commencé à réglementer la carte des vins. Toute bouteille entamée devait avoir un trait, enfin, devait avoir un carnet qui avait bu quoi. Bon, ça a désespéré le personnel de l'époque, parce qu'ils parfois ils finissaient les bouteilles.
Ah oui. Les bonnes bouteilles.
Oui, elles ont chacune à leur façon, avec plus ou moins de grâce, avec plus ou moins d'amabilité pour le personnel, essayé de mettre cette maison au pas, parce qu'elles se pensaient chez elles. Ouais.
La lanterne, un lieu de joie, de détente, un lieu politique, aussi un lieu de drame. Qu'est-il arrivé à Édouard Balladur dans cette résidence?
Alors, heureusement, à Édouard Balladur, il n'est rien arrivé, mais il est arrivé quelque chose à son setter irlandais qui s'appelait Titus. Il y a à l'époque un jardinier à la lanterne, et un jour, Madame Balladur le fait venir et lui annonce le drame. Titus est mort, enfin Titus a été piqué par un vétérinaire. Et Madame Balladur était très attachée à ce chien. Elle demande au jardinier de trouver un endroit dans le parc, 4 hectares, je vous le rappelle. Elle aimerait bien qu'on construise quelque chose un peu à la hauteur de l'affection qu'elle avait pour cet animal. Donc elle verrait bien un petit mausolée, une petite tombe. Et le jardinier, qui était peut-être plus sage, il dit qu'un arbuste, ça fera très bien l'affaire. Donc on va trouver une caisse de Château Margaux, on va mettre le setter irlandais dedans, et on va donc creuser une tombe dans le parc, et puis mettre un arbuste. Voilà. Quand 2 ans plus tard, Alain Juppé va succéder à Édouard Balladur, et qu'il va découvrir qu'il y a un cadavre de chien dans le parc, il va avoir cette attitude, on peut considérer qu'elle soit mesquine, de demander à ce que le cadavre de ce chien soit enlevé. Et ce sont donc une voiture.
Même s'il était droite, ce cadavre de chien. Non, ça compte pas.
Ah oui, mais ça avait été violent, la campagne 95. Ouais,
non, mais surtout, appréciez juste ce détail, c'est que c'est une voiture de Matignon qui va venir chercher le cadavre.
Et pour le rendre au Balladur.
Pour le rendre au Balladur, qui vont ensuite aller l'enterrer à Chamonix.
Oui, ça fait partie effectivement des petites histoires mesquines de ce pavillon de la lanterne dont vous racontez les anecdotes, le destin dans ce livre, La garçonnière de la République. C'est publié chez Grasset, Émilie Lanaise. Et alors, il y a une anecdote qui est vraiment très drôle, il faut la raconter. Ça a aussi été un chenil.
Oui, c'est génial.
mais comment?
Oui. Parce que les gardiens aimaient beaucoup les animaux. Ils avaient même beaucoup de chiens, ils avaient des perroquets. Et puis, pour arrondir un peu leur fin de mois, ils acceptaient de garder les chiens de gens qui partaient en vacances. Ils ont notamment gardé le chien de Dick Rivers. Donc le pavillon du Premier ministre, dans un endroit, était un chenil. Et c'est, voilà. Et l'affaire s'est un peu finie parce que Dick Rivers, quand il est venu récupérer son chien, très bien gardé à la lanterne, a demandé à visiter les lieux. Et là, les gardiens ont pris un peu peur parce qu'ils lui ont interdit, mais ils se sont dit que voilà, ça allait se savoir, donc ils ont arrêté d'avoir leur activité de chenil dans la résidence des premiers ministres.
Ces gardiens dont vous parlez, Émilie Lanaise, ils ont un job de rêve ?
Ah non, je ne pense pas, non. Je pense qu'ils ont un job très dur. D'abord, ils vivent dans un isolement complet. Il faut quand même vous imaginer qu'ils sont séparés par un mur seulement des jardiniers du château de Versailles. Et jamais un jardinier du château de Versailles n'a franchi l'enceinte de la lanterne. Les gardiens de la lanterne ne reçoivent pas d'amis, ils n'ont pas de visiteurs, ils ne figurent pas dans l'annuaire pour que leurs enfants ne soient pas soumis à un... Enfin, il y a des raisons de sécurité, mais ils vivent dans un isolement terrible, très dur. Et le château de la lanterne, enfin le pavillon de la lanterne, c'est très beau quand il y a du soleil, on a des amis et quand on joue dans la piscine. Mais enfin, quand il pleut, le parc est grand, les arbres grincent et ils sont deux tout seuls à garder une maison vide.
Merci beaucoup, Émilie Lanaise. Votre livre est passionnant. On le conseille à nos auditeurs. La garçonnière de la République, c'est publié chez Grasset.
On vous conseille aussi de filer sur RTL.fr pour réécouter l'émission et la faire découvrir à vos ennemis et surtout vos amis.
Allez, demain, c'est soirée foot, Ligue des Champions sur RTL avec le match aller des huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain, allez Paris, et Barcelone.
Très belle fin de soirée à vous. On se retrouve mercredi à 20h. Tout de suite, c'est RTL Grand Soir avec Arnaud Touche et Christophe Pacaud. RTL, il est 22h.